parle de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement cette histoire.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le budget 2014 n'est toujours pas déposé au Parlement. Au cours d'un débat tenu à l'Assemblée nationale sur la question, les députés ont exigé au gouvernement de s'acquitter de ses devoirs d'ici au 1er décembre. Cette affaire relance donc le débat sur l'exercice budgétaire en RDC et qui est caractérisé chaque année par le retard de dépôt du budget au Parlement. Quel regard portez-vous sur cette affaire? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien au 081 890 3315. Titi Poutou et Nadine Foula sont à la réalisation et Willem Lungamba à la mise en onde de ce programme présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Merci d'avoir accepté de réfléchir ou d'analyser cette affaire avec nous et aussi avec les auditeurs qui vont intervenir d'un moment à l'autre. Mais d'entrée de jeu, pourquoi l'exercice budgétaire en RDC est caractérisé chaque année par le retard de dépôt du budget au Parlement?
Ah, monsieur Gérard, vous savez que le budget, d'abord, c'est une traduction de la volonté des gouvernements de réaliser un programme économique. Mais pour ce faire, il doit être tenu compte de plusieurs éléments pour atteindre cet objectif-là. Parce que vous savez, les prévisions économiques ou macroéconomiques doivent être affinées et analysées en profondeur de manière à tirer toutes les conséquences au plan national. Quels sont ces préalables-là? D'abord, il s'agit du contexte, le contexte économique international. Vous savez, chaque pouvoir exécutif, chaque gouvernement doit avoir une connaissance parfaite des prévisions macroéconomiques, du taux de croissance au niveau mondial pour en tirer les conséquences au plan national. On tient également compte, comme deuxième préalable, de la situation économique des partenaires et des voisins. Vous savez, chaque pays doit avoir ses principaux partenaires en matière d'importation et d'exportation. Et c'est là que, notamment, la Banque centrale joue un rôle important pour fournir toutes ces données-là en se reportant en relation avec ses partenaires. Vous savez, lorsque nous avons des difficultés avec des voisins, on ne peut pas commercer. Donc, si on ne commerce pas, on n'aura pas de ressources. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'évolution économique avec les principaux chiffres clés. Je crois qu'au niveau du gouvernement, on parle tout le temps. Quel est le niveau des dépenses publiques, des dépenses privées, nos exportations, le solde de la balance des paiements, le taux d'échange, les taux d'intérêt. Alors, tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi le recettement fiscal de l'État, qui proviennent, par exemple, des entreprises publiques qui doivent payer des dividendes. Est-ce que ces entreprises payent le rôle que l'État doit avoir pour soutenir l'économie? Je crois qu'on parle maintenant de la manière dont on peut voir l'État intervenir en subventionnant quelques entreprises, en créant une classe moyenne. Et il y a toute la politique de l'investissement. Tout ça doit être pris en compte. On ne doit pas donner des chiffres comme ça parce qu'on veut bien respecter les règles qui sont prévues dans la Constitution. Ce n'est pas des règles mathématiques ou bien des paroles d'évangile pour dire qu'à telle période, on doit déposer le budget si on ne dépose pas. Voilà le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui avec les concertations nationales qu'il y a eu et l'attente d'un autre gouvernement. Et tout ça, ça doit être budgété, ça ne doit pas se faire dans la précipitation, et je crois que...
Oui, professeur Bakandeja, donc on parle de respect du principe de continuité de l'État, dans l'hypothèse selon laquelle que ce gouvernement ne pourrait plus être reconduit, mais au moins la République continue.
Oui, mais bien sûr, le gouvernement va continuer, mais on ne va pas le faire dans la précipitation. Vous savez, la Constitution a prévu elle-même des dispositions en cas de retard. Soit de retard du Parlement, le Parlement, il peut arriver que le budget soit déposé dans les délais, et le Parlement n'a qu'à peu près 3 mois pour examiner ce budget. Et généralement, on ne le dépose pas à temps parce qu'il y a, avec le régionalisme constitutionnel que nous avons adopté dans le pays, il faut tenir compte des budgets des provinces, etc. Oui, il y a des provinces qui sont en retard, il faut intégrer ça au budget général. Donc, il peut y avoir logiquement des réponses. Des retards. Il y a aussi des retards qui peuvent provenir du gouvernement. Et c'est normal que dans certaines circonstances où il y a des problèmes politiques, des questions de rébellion, etc., qu'il y ait eu des dépenses qui aient été engagées. Est-ce qu'il faut maintenant penser à la fin de la guerre en se disant, bon, comme on ne va pas faire encore la guerre, est-ce qu'il faut nécessairement diminuer les recettes ou les ressources au niveau du ministère de la Défense pour la diplomatie, vous voyez, tous ces gens qui sont
budgétés. Oui, professeur, pour faire une idée à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, quelle est la durée d'un exercice budgétaire?
Mais la durée, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est l'exercice budgétaire qui va du 1er au 31 décembre. Mais quand on dit que le budget de l'État a été voté à 5 milliards ou 10 milliards de dollars, ça ne signifie pas qu'au moment où on l'exécute, les milliards là sont déjà dans la caisse. Les milliards seront perçus tout au long de l'année. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, parce que je vois souvent les Congolais, ils disent, ah, le budget, on a voté le budget, on va l'exécuter. Non, c'est une technique. C'est une technique de gestion de l'État. Ça ne veut pas dire que quand il y a 7 milliards, les 7 milliards sont dans la caisse au mois de janvier. Non, ce n'est pas comme ça. C'est perçu au fur et à mesure que les recettes rentrent dans la caisse du Trésor. Et quand les recettes ne rentrent pas, il y a possibilité de recourir aux avances de la banque en attendant
le crédit provisoire.
Que les recettes de l'État puissent rentrer dans les caisses du Trésor. Bien entendu, bon, quand c'est la banque centrale qui avance, il faudra aussi la désintéresser parce qu'il y a des intérêts que la banque doit avoir. Voilà. Donc, ça, il faut que les gens intériorisent ça. Le budget, ce n'est pas une affaire comme dans une maison. La différence entre le budget de l'État et le budget des particuliers, c'est que le budget de l'État est un acte d'autorisation. Ce que le Parlement fait, en réalité, c'est l'autorisation de percevoir les recettes et de réaliser les dépenses. C'est ça, en fait, parce que les gens confondent. On croit que c'est quand c'est le Parlement, quand on dit Parlement, autorité budgétaire, ça ne veut pas dire c'est le Parlement qui élabore le budget, qui l'exécute. Non, ça c'est la tâche du gouvernement. Et si le gouvernement est en retard, il suffira simplement de faire pression pour que les calculs soient faits et qu'on avance.
Voilà. Alors, professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes économiste et expert en budget.
Et juriste.
Juriste. Vous avez, en quoi vos propos, le retard donc dans les dépôts de budget au niveau du Parlement ou devant l'autorité budgétaire n'impacte pas sur la gestion de l'État?
Non, ça n'impacte pas sur la gestion de l'État. Vous voyez, de tout ça, ça doit être affiné. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'au Congo, on veut faire des choses dans la précipitation. C'est vrai, moi, je ne suis pas là pour défendre un gouvernement qui est en retard. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas le seul gouvernement au monde qui est en retard par rapport au vote, à l'examen de la loi de finance de l'année, qu'on appelle la loi budgétaire. Ce n'est pas le seul. Mais la Constitution prévoit qu'en cas de retard, comment on peut rattraper ce retard? Et vous avez constaté, à ce moment, il y a même des sessions extraordinaires, on demande aux parlementaires de rester pour examiner, etc. Tout ça, ce sont des techniques. Hein.
Et voilà, il est prévu d'ailleurs, au niveau de Parlement, une session extraordinaire quant à ce, incessamment. C'est ce que nous avons appris de nos sources auprès du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc je crois que le gouvernement a accepté de participer à cette session dans laquelle il pourrait présenter ses budgets. Nous avons en ligne des auditeurs, Maître Adrien et Kananga et Arsène Akikwit, et nous vous rappelons, chers auditeurs, vous pouvez aussi nous rejoindre pour participer à ces débats en composant les 081 890 49 69.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, J.M. Lungembo. Bonjour au professeur Bakande Chavampong.
Alors, le budget 2014 n'est toujours pas déposé au Parlement. Nous avons tous suivi au cours d'un débat tenu à l'Assemblée nationale sur la question. Les députés ont exigé au gouvernement de s'acquitter de ses devoirs d'ici au 1er décembre. Alors, cette affaire, selon nous, relance donc les débats sur l'exercice budgétaire en RDC qui est caractérisé chaque année par le retard de dépôt du budget, au Parlement. Alors, quel regard, vous, Adrien, vous portez sur cette affaire?
Merci, J.R., pour la parole que vous m'accordez. Et puis, j'apprécie la question posée par votre émission parce que, personnellement, je ne suis pas surpris. Cela est devenu monnaie courante en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, le gouvernement, je me dis, fait ça d'une manière consciente et intentionnelle pour ne pas permettre aux députés donc de ne pas leur accorder un temps matériel suffisant pour commencer d'abord à vérifier le budget de l'année passée ou bien de la saison ou bien de l'année en cours. Là, je retiens que c'est vraiment une répétition. Et puis, deuxièmement, hier, cela ne fait que se passer en République démocratique du Congo. C'est comme le professeur Bakande déjà venait de le dire. Il y a un timing qui est accordé et au gouvernement et aux parlementaires, donc pour débattre d'une question essentielle, parce que c'est ça même la vie et la mort d'une nation. Une nation ne peut pas travailler, évoluer sans budget. Bon, lorsqu'il y a un silence du côté gouvernement, et puis vous venez de l'épingler qu'on compte une session extraordinaire. Or, nous savons très bien que la durée d'une session extraordinaire a moins que si je n'ai pas de bonnes informations, c'est un mois. Et moi, je me demande, dans le un mois, qu'est-ce que les parlementaires pourront faire pour travailler correctement. Et moi, je me dis, et si vous rendez compte, c'est toujours ceux-là qui dénoncent, parce que c'est un député de la majorité qui l'a dénoncé, mais c'est eux.
Malheureuse,
parce que lorsque la question sera soumise au débat. Vous allez voir comment est-ce que nos amis de la majorité traitent avec complaisance toutes ces questions-là. Or, si les parlementaires prenaient leurs responsabilités, en commençant d'abord par mettre en application tous les mécanismes leur accordés par la Constitution par rapport à un retard pareil, je pense que ça serait une leçon donnée au gouvernement pour qu'à la prochaine, que le gouvernement ne puisse plus encore revenir par rapport à cette même situation. Parce que nous nous posons la question de savoir, ce retard est dû à quoi? C'est un silence radio. On nous dit pas qu'est-ce qui fait à ce que le gouvernement ne puisse pas déposer ce projet-là donc à l'Assemblée pour que le débat commence. Si aujourd'hui, par malheur, on nous dira que non, c'est par rapport aux concertations, par rapport à la situation de l'Est. Mais là, j'y ai, permettez-moi de vous dire que c'est un faux débat. Parce que, c'est comme le professeur l'avait dit, l'année budgétaire commence à partir du mois de janvier jusqu'au 31 décembre. Mais tous ces mois ici, le gouvernement travaillait tous ces temps ici. Le gouvernement avait tous les temps possibles pour vraiment se mettre au diapason. Sachant que non, nous sommes déjà à la session budgétaire, il faut déjà voir comment est-ce qu'il faut déposer déjà la loi ou bien les projets auprès de l'Assemblée. Voilà, moi je pense que
voilà, merci
c'est
beaucoup.
Une manière intentionnelle pour ne pas permettre vraiment aux députés
d'avoir le temps matériel
de se rendre compte de l'utilisation du budget passé. Parce que lorsqu'on soulève cette question-là, apparemment, c'est comme si on met vraiment le doigt dans la plaie, là où le gouvernement n'aime pas qu'on puisse toucher. Moi, je pense que c'est d'une manière intentionnelle et que nos députés s'assument.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Même les sanctions. Moi, j'irai même plus loin pour demander aux députés, pourquoi pas, donc pourquoi pas de rejeter.
Voilà, merci beaucoup Maître Adrien, parce que vous l'avez évoqué, hein, la motion d'un des membres de la majorité par rapport à cette question au cours de ces débats à l'Assemblée nationale. Nous aurions bien souhaité d'ailleurs ce matin nous être en contact avec ces députés pour qu'ils donnent également son point de vue par rapport à la question. Malheureusement, ils se trouveraient actuellement donc en une réunion, ce ne serait pas possible qu'elle puisse. Alors donc, nous nous contentons de notre expert à la matière, professeur Grégoire Bacan déjà, qui nous oriente d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ces retards sont volontaires, c'est voulu par ceux-là qui sont censés élaborer ces budgets. Ils le font pour empêcher au Parlement d'avoir le temps matériel de pouvoir suffisamment examiner cette loi des finances qui gère l'État. Merci beaucoup, Maître Adrien. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Arsène.
Bonjour Monsieur JR et bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole à Axène. Cette affaire, je l'ai dit, relance donc le débat sur l'exercice budgétaire en RDC, qui est caractérisé, c'est chaque année, par le retard de dépôt du budget au Parlement. Alors quel regard portez-vous sur cette affaire?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que le débat, il en faut. Vraiment, moi, à mon avis, c'est juste ce que je peux considérer sans me gêner. C'est de l'incompétence, pure et simple. Parce que gouverner, c'est prévoir. On a eu tout le temps, vraiment tout le temps, pour faire les calculs qu'il fallait, pour faire les prévisions qu'il fallait, et être à temps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à temps. Ça cache quelque chose, ça cache quelque chose derrière. Pourquoi j'ai dit que ça cachait quelque chose? Nous avons l'art de ne pas connaître vraiment le principe dimensionnel. On dirait que c'est notre façon de vivre. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans prévenir. Donc nous faisons de l'à-peu-près. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que nous avons, on dirait que notre gouvernement ou non gouvernant travaille en fonction de la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes. Pourtant, ils devaient normalement travailler en fonction de la volonté populaire. Si aujourd'hui nous acceptons que nous avons un gouvernement, nous avons un parlement, c'est parce qu'il y a eu mandat. Et quand il y a eu mandat, il y a eu directement la redevabilité. Il faut qu'on puisse donner à ceux qui ont donné mandat le rapport du travail qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, quand nous disons pour la volonté de, à cause de la volonté de, et voilà les conséquences, nous devons nous couvrir derrière des principes juridiques. Non, il y a l'espace, c'est gênant.
Voilà, merci beaucoup Arsène d'avoir appelé les Kikwit dans le Bandundu. Toto Kani, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Voilà, vous avez suivi comme vos prédécesseurs, le projet de budget 2014 n'est toujours pas déposé au Parlement et nous avons assisté à un débat tenu à l'Assemblée nationale sur la question. Les députés ont d'ailleurs exigé au gouvernement de s'acquitter de ses devoirs d'ici au 1er décembre. Alors nous nous disons que cette affaire relance le débat sur l'exercice budgétaire en RDC qui est caractérisé chaque année par le retard de dépôt de budget au Parlement. Alors quel regard vous portez sur cette affaire?
Oui, le regard que je porte sur ce retard, c'est un constat teinté d'un peu de regret du fait que ça a pris du retard, mais ma considération, c'est aussi peut-être pour dire que pour mieux sauter, il faut savoir, j'allais dire reculer, mais je ne vais pas dire reculer, il faut savoir arranger sa monture. Donc, l'État, ça peut prendre, je suppose qu'ils sont en train de mieux se préparer. Et qu'à cela, il y a la date butoir. Hein. J'ai suivi dernièrement le président de l'Assemblée nationale qui disait que ça pouvait aller jusque 15 jours avant la fin de la session en cours. Et là, je souhaiterais vraiment que le gouvernement fasse diligence de manière à ne pas aller au-delà de cette date, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et si jamais cela se faisait, je souhaiterais que pour le budget qui est en gestation, qu'il y ait aussi des priorités qui doivent s'établir, notamment la part qui pourrait être réservée au NTIC, à l'agriculture, au FARDC et à la police, ainsi qu'à à l'éducation et à la santé. Je souhaiterais là que, étant donné que le gouvernement n'a pas encore déposé jusque-là son budget, qu'il soit plus regardant sur ces secteurs qui sont aujourd'hui là plus que stratégique et plus que prioritaire pour le développement de notre pays.
Oui.
Mais en tout état de cause, le retard, nous le déplorons. Je souhaiterais que prochainement encore que le gouvernement prenne le temps qu'il faut, en tout cas pour préparer leur budget qui pourra être déposé en temps et en heure pour que nous ne déplorions plus ce genre de retard. Je dis et je répète une fois encore que c'est vraiment déplorable, c'est un tout petit peu regrettable.
Oui, Toto Kani, si vous...
En retard.
Oui, s'il vous plaît, Toto Kani.
Que prochainement, que cela ne se répète plus.
Oui, Toto Kani, voilà, si vous... Oui, s'il vous plaît, une question là pour vous, Toto Kani. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez par rapport à au point de vue ou au propos des certains observateurs qui pensent que aujourd'hui, il faut normalement qu'on puisse attendre simplement la composition de notre gouvernement qui pourrait s'y atteler.
Je crois que si le gouvernement actuel, le gouvernement Matata, en a encore le pouvoir, mais où est le mal qu'il le fasse? Je ne vois pas de mal que le gouvernement Matata, s'il a encore le pouvoir, juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, qu'il dépose le budget. Alors, si au cas où il n'en avait pas le pouvoir, je souhaiterais, alors, dans ces conditions-là, aller dans le sens de ces observateurs, j'allais dire, qui pensent qu'il faut plutôt attendre le prochain gouvernement.
Merci beaucoup, Toto Kani, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons tout droit à Bounia, dans la province orientale. Otiodi, bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. Bonjour.
Bonjour, M. Jean-Luc, bienvenue à la Radio Capi.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Otiodi. Merci beaucoup d'avoir la parole. Moi, je pense que...
Voilà, où tu dis, vous êtes... je ne sais pas où vous êtes, vous vous trouvez à présent. Si vous êtes vraiment dans une maison, prière de sortir un tout petit peu, hein, parce que là, on a du mal à vous écouter. Voilà. Le temps que la ligne de Tudy puisse s'arranger, nous allons vous rappeler, chers auditeurs, vous qui souhaitez participer à cette émission, les budgets 2014 n'est toujours pas déposé au Parlement. Au cours d'un débat tenu à l'Assemblée nationale sur la question, les députés ont exigé au gouvernement de s'acquitter de ses devoirs d'ici au 1er décembre. Cette affaire relance donc les débats sur l'exercice budgétaire en RDC qui est caractérisé chaque année par le retard de dépôt de budget au Parlement. Quel regard portez-vous sur cette affaire? 081-890-49-69.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, nous avons professeur Grégoire Bakandeja, vous avez suivi Adrien, Arsène, Toto Kani, Otiodi et tant d'autres qui sont intervenus au cours de cette première série des auditeurs. Alors, votre réaction, professeur?
Les réactions de nos amis, monsieur Adrien, Arsène, Toto Kani et Otiodi, mais ce que je dois rappeler, c'est que le budget est essentiellement le cœur de la démocratie. Il n'est pas seulement une question technique, mais c'est aussi une question politique. Il faut avoir un œil politique pour élaborer et exécuter un budget. Alors, je vous ai dit que le budget, les prévisions budgétaires, sont examinées à partir du moment où on exécute même déjà le budget au cours du premier trimestre de l'année. Et généralement, si c'est le gouvernement qui élabore ce budget, l'Assemblée, comme le Sénat, sont associés à la discussion budgétaire. Les parlementaires ne peuvent pas se plaindre. Logiquement, entre le mois d'avril et le mois de juin, les parlementaires devraient logiquement être associés aux prévisions budgétaires. C'est en ce moment-là d'ailleurs qu'ils peuvent pousser sur le gouvernement pour que le gouvernement prépare le budget à temps et puisse le déposer devant les chambres législatives avant le 15 septembre chaque année. Donc, logiquement, il y a une symbiose entre le gouvernement et le Parlement, d'une manière générale, sur la question budgétaire. Et le travail des parlementaires revient simplement en aval au cours du dernier trimestre de l'année. Donc, si on travaillait en synergie, on devrait pas se poser des questions. Et donc, toutes les discussions qui viennent au niveau du Parlement, le Parlement ne vient pas pour chambouler tout le travail qui a été fait par l'exécutif, qui a des techniciens et des spécialistes sur des questions, alors qu'au niveau du Parlement, toute la masse là des documents qui arrivent ne peut pas être examinée en 3 mois. Donc, vous voyez que s'il y a une collaboration entre l'Assemblée et le gouvernement, le problème ne devrait pas se poser quand il y a un retard. Il suffit de demander aux gens d'analyser les documents en profondeur. Et je constate simplement ce qu'on a, on a toujours déploré ici, c'est que tout ce budget-là n'est basé que sur le fonctionnement.
Mm-hmm.
Parce que les gens se battent pour le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est simplement un budget de consommation. Or, il faut en faire un budget de développement. Et pour en faire un budget de développement, il faut analyser tous les mécanismes, même au niveau de contrôle. On a d'abord s'assurer comment le budget a été
exécuté,
examiné au cours des dernières années. Il n'y a pas de reddition des comptes. Les parlementaires devraient d'ailleurs s'intéresser sur la reddition des comptes pour voir, parce que la reddition se compte pratiquement tous les 2 ans, comment le budget antérieur ont été exécutés à partir des éléments du budget exécuté. En recettes comme en dépenses, on peut se dire, là, vous avez eu moins de recettes, il faut les augmenter. Là où il y a eu plus de dépenses, il y a eu peut-être des dépassements, ça a été utilisé pas comme la loi l'avait prévu, et poser des questions au gouvernement. Mais sinon, ça ne doit pas être un théâtre où les gens disent, ah, il faut voter le budget, il faut voter le budget. Après, on vote, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit
voir les choses.
Voir les choses, ça ne devrait pas poser un problème. Entre le Parlement
et les
gouvernements. Il faut relativiser tout ça, parce que je vois même en province, quand on élabore aussi des budgets de province, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces hémicycles? C'est seulement pour voir, il faut augmenter ici, augmenter les émoluments. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la gestion budgétaire, parce qu'on dit c'est le budget de l'État, ce n'est pas le budget simplement des institutions qui sont là, c'est le budget aussi pour le développement. Il faut voir comment les ressources vont être réparties, comment on va redistribuer ces revenus, où est-ce qu'il y a des problèmes. Et ça, un gouvernement doit faire ça. On ne doit pas faire ça dans l'administration, puisque la date limite est arrivée, on va aller déposer des documents. Sinon, on ferait simplement une reproduction des budgets antérieurs.
Oui, parce qu'on y est, vous avez parlé de la reddition des comptes, si notre source elle est vraiment la bonne, nous avons les infos selon lesquelles la Cour des comptes de la RDC a même déjà publié un rapport par rapport à l'exécution du budget 2012 qui se trouverait, en tout cas semble-t-il, au niveau déjà du Parlement. Et ça c'est une première, parce que la Cour des comptes a semblé vraiment disparaître.
Mais c'est à partir de cette reddition de comptes qu'on peut, alors à partir de la reddition de comptes, on verra comment ont été exécutées les recettes, comment ont été réalisées les dépenses. Les parlementaires devaient se saisir de ça pour déjà poser ce nombre de problèmes au lieu de parler seulement de budget. Parce qu'à partir de la reddition de comptes là, ce sont des éléments qui permettent de voir dans quel domaine on peut s'orienter pour pouvoir soit augmenter les recettes, soit réaliser les dépenses. Il y a un autre aspect. Vous savez, la plupart des provinces ont aussi leur propre budget. Mais on ne voit pas, on n'a jamais fait de reddition de comptes aussi pour savoir, mais vous avez eu, donc, comment vous avez exécuté les recettes, voir la part qui est réservée aux institutions, voir la part qui est réservée au développement. Tout ça, ça doit s'apprécier. Et puis cette histoire de 40% qu'on réclame, etc., c'est 40% des ressources de l'État. Si on doit les céder aux provinces, oui, là, le drame qu'il y a au Congo, quand vous prenez, si on dit il faut appliquer la constitution, les 40% il faut céder aux provinces. Mais les 40% ce ne sont pas les ressources des provinces, ce sont les ressources de l'État.
Nous avons en ligne également deux auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Fiston qui est à Kananga, Théodore Ambujimaï. Fiston, vous êtes avec nous, bonjour. Fiston, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Théodore. Théodore, vous êtes avec nous à Ambujimaï.
Bonjour, Jean.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Théodore.
Oui, j'interviens en disant que les députés sont vraiment censés à faire ce travail, mais aujourd'hui, il y a un retard sur ces budgets. Alors, pour moi, je devrais parler sur les finances, par exemple. Vous savez que les députés sont là pour légiférer des lois et procéder au contrôle parlementaire. Au niveau du gouvernement, par exemple, ils doivent interpeller les ministres pour savoir ce qui s'est passé dans cet exercice budgétaire de l'année passée. Ils doivent le faire dans les sociétés, dans les entreprises publiques, tout ça pour en savoir plus. Si aujourd'hui, la loi sur la finance publique traîne, c'est voulu par les mêmes députés pour geler des choses. Vous savez que la loi sur la décentralisation avait suscité trop de débats. Parce que cette loi devrait s'emboîter avec la loi sur les finances. Celui-ci devrait intervenir pour le financement des provinces.
Théodore, parce qu'on doit, évoluer. Il y a un auditeur tout à l'heure, il s'agissait bien entendu de Toto Kani, c'est Maître Adrien, qui disait tout à l'heure que cette motion a été proposée par un député de la majorité qui en fait voulait voir clair pourquoi ces retards, mais l'inquiétude d'Adrien tourne autour de, malgré que ce soit la majorité qui propose ça, ce budget sera déclaré recevable toujours par la même majorité. Ce qui passe comme s'il s'agissait là d'un théâtre. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, c'est du théâtre, c'est vraiment du théâtre, parce qu'on ne peut pas avancer. Comment la majorité peut accepter tout ce qui est oui, il faut dire oui, ce qui est noir, il faut dire bon. Alors, moi j'ajoute en disant que si le gouvernement pouvait penser à faire le contrôle, par exemple, vous savez, l'année passée, il y a eu des doublements, des assignations à la DGRAD comme à la DGI. C'est l'argent dans les recettes. C'est à partir de ces recettes là qu'on peut estimer un budget quelconque. Mais aujourd'hui, si les contribuables même qui empathiquent dans les recettes avec les dédoublements et consorts, sans production ni exportation dans ces pays, les choses ne pourront pas avancer. C'est ainsi que nous disons que le gouvernement qui pourra venir, il se pensait en production d'abord, exportation, et amener beaucoup de devises à la République démocratique du Congo, les choses pourront bien aller de l'avant. Voilà ma préoccupation.
Donc vous pensez que par rapport à la production, ça permettrait, on va résoudre ce problème de retard?
Oui, parce que les pays, dans toutes les provinces, par exemple, au Katanga, comme ici chez nous, au Kassai-Oriental, à Bandaka, le Quater, vous savez, on doit faire des productions. Si on arrive à produire beaucoup et exporter, dès que les devises arrivent chez nous, les choses vont se dessiner d'elles-mêmes.
Voilà,
et on va faire un budget conséquent.
Voilà, vous rejoignez donc les propos tout à l'heure de notre invité qui parlait d'un budget de consommation au lieu que ça puisse revêtir le caractère de budget de développement. Voilà. Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé de Mbujimayi. Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, Monsieur J.R.
Vous avez la parole, Marcel.
Ok, merci beaucoup. Je pense que d'entrée de jeu, il est peut-être précipité de dire pendant ce temps qu'il y a retard justement à la matière de budget, puisque comme notre invité l'a si bien soulevé, la 172 de la Constitution précise que l'exercice budgétaire commence du président.
Voilà, Marcel, on a des petits soucis.
Nous sommes encore au mois de novembre.
Oui, Marcel, nous avons des petits soucis avec votre ligne téléphonique. Si vous pouvez peut-être changer de position ou carrément sortir de là où vous êtes pour nous permettre d'écouter tout ce que vous dites. Voilà, vous êtes avec nous, Marcel?
Oui, je suis avec vous. Maintenant, ça va?
Voilà, allez-y. Maintenant, on vous écoute sans problème.
Ah, ok. J'étais en train de dire que l'exercice du budget commence du 1er janvier au 31 décembre, suivant l'article 172 de la Constitution, comme notre invité l'avait si bien dit. Et je ne pense pas qu'il faille parler à ce moment du retard dans le budget. Mais ce qu'il faut encore souligner, c'est que l'élaboration du budget commence au niveau aussi des entités territoriales décentralisées, au niveau des provinces, et tous ces budgets, tant du province que des entités territoriales décentralisées, seront maintenant incorporés dans le budget central maintenant ce que nous appelons la loi des finances de l'année que l'on appelle le budget. Donc, c'est tout un processus qui doit commencer d'abord au niveau de la base. Et peut-être que, comme l'avait dit notre invité, et certaines personnes peuvent croire qu'il s'agit là d'un argent liquide, en fait, qu'on prévoit tout ça. Non, ce sont des autorisations, des dépenses, des recettes, en fait, pour couvrir les dépenses de l'État. Alors, tout cela, il faut qu'il y ait une étude approfondie en ce sens. Et donc, moi, je pense qu'il faut peut-être laisser le gouvernement,
Marcel,
au 31 décembre, que le gouvernement planifie bien les choses, de manière à éviter à ce que les choses se fassent dans la précipitation, pour qu'en 2014, les documents qui seront présentés ou soumis au niveau du Parlement, adoptés et ensuite par le Parlement, ne puissent pas faire l'objet de beaucoup de critiques ou d'amendements, pour que les données statistiques ne seront pas fiables pour permettre qu'en 2014, que le gouvernement, et surtout que le budget étant en fait une volonté aussi, une vision politique qui ne puisse pas aboutir à des résultats escomptés.
Voilà, Marcel, vous êtes sans ignorer que la loi accorde également 40 jours à la Chambre basse pour examiner cette loi des finances publiques pendant la session budgétaire. Alors si vous rejoignez notre invité en ce moment, le fait que l'exercice budgétaire va jusqu'au 31 décembre, je crois que vous faites personnellement des calculs. S'il faut laisser le temps à la Chambre basse de faire disons d'examiner cette loi, combien de temps disons ils auront, ben voilà, donc je vous laisse faire le calcul, hein. Pardon Marcel, vous êtes à Kisangani, merci d'avoir accepté de participer à ces débats. Nous prenons Gaston qui est à Kinshasa. Gaston, bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Vous avez la parole, Gaston.
D'accord, la loi des finances, disons, c'est un acte législatif qui autorise au gouvernement de recouvrer les recettes, mais aussi satisfaire les dépenses prévues dans le cadre du budget. Je pense que c'est ce qui doit être fait dans un système dit démocratique qui est le nôtre, mais ça ne se limite pas seulement là-bas. Lorsqu'on autorise à un gouvernement de recouvrir satisfaire ses besoins, je pense que ce gouvernement a le devoir de venir rendre les comptes, que ce soit en cours de l'exécution, ou soit à la fin de l'exercice budgétaire, c'est ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous pensons que depuis un certain moment-là, je pense depuis lors, on vit un système où le budget est déposé en retard et est exécuté sans même rendre compte à ceux qui ont autorisé à ce que ce budget-là soit exécuté. Et nous disons que ce n'est pas la différence entre ce que Mobutu faisait. J'ai dit que la démocratie, ça ne se limite pas seulement au niveau des élections. Nous, vous avons voté, vous êtes là-bas, c'est nous qui vous avons voté. Mais lorsque vous ne participez pas à la gestion en ce qui concerne les contrôles, nous disons que non, il y a seulement un groupe de gens qui se contentent de gérer ce pays avec leurs initiatives, et non ce que vous nous prétendez dire être. Et donc nos élus nous ont trahis. Sur ce point-là, je voulais aussi dire qu'il est difficile vraiment de prétendre à dire que c'est ce gouvernement ici qui va déposer les projets de budget, parce qu'à mon avis, ce gouvernement n'existe plus. Il y a déjà un autre gouvernement qui est déjà, disons, en quelque sorte, proclamé, mais qui n'est pas encore effectif, qui va aussi, disons, déposer son projet de budget dans la nouvelle configuration de la majorité. Vous savez, même cette majorité n'existe même plus, parce qu'avec le temps, on verra une autre configuration. Donc, il est difficile de prétendre. Donc, nous continuons toujours avec les retards. Vous voyez, nous dirigeons un grand pays comme le nôtre sans budget. Ça ne nous arrange pas. Et nous disons que nous devons cesser de tromper la population, parce qu'il n'y a pas une différence entre ce que Mobutu faisait et ce régime dit démocratique.
Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé. Nous revenons à vous, professeur Grégoire Bakandeja. C'est vrai que le débat aujourd'hui tourne également autour de qui est habilité à déposer ce budget. Est-ce le gouvernement actuel qui est décrété démissionnaire, ou encore un autre qui viendra? Parce que c'est lié au temps, ou peut-être un ouvercé dans le principe de continuité de l'État.
Mais je crois, monsieur le journaliste, il faut rester dans le principe de continuité de l'État. Les institutions demeurent et les hommes passent. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays, il est prévu des collectifs budgétaires. C'est-à-dire, un gouvernement qui arriverait demain peut corriger le budget précédent en tenant compte des réalités qui sont là. Mmh. Donc, ça ne devrait pas poser un problème. Je comprends les préoccupations notre ami Marcel et puis Théodore, etc. Vous savez que les finances publiques sont l'objet d'actualité dans presque tous les États. L'État n'a jamais cessé de rechercher les moyens de financer son action. Et cela se fait comment? En levant l'impôt et en organisant ses dépenses. Alors s'il faut lever l'impôt, vous savez que nous avons un problème au pays avec la taxe sur la valeur ajoutée qui est d'application depuis presque une année. Mais beaucoup d'opérateurs ne veulent pas se faire connaître, parce que les assujettis à la TVA doivent communiquer un certain nombre d'informations en rapport avec des clients. Il y a des assujettis qui n'arrivent plus à vendre parce que les clients ne veulent pas, ils veulent évoluer dans l'informel. Mais un État qui ne perçoit pas des recettes fiscales ne peut pas réaliser des dépenses. Vous voyez, quand l'un des téléspectateurs dit qu'il y a des États qui ont des budgets, qui élaborent à temps, etc., c'est pas une fierté d'avoir un pays de 70 millions d'habitants avec moins d'un million de personnes physiques qui contribuent au budget de l'État. Moins d'un million de personnes. Alors ça veut dire que les gens évoluent dans l'informalité, personne ne paie des impôts. Mais alors, vous voulez que l'État fasse des miracles, comment, à partir du moment où les opérateurs économiques fraudent à l'impôt, et c'est connu de tout le monde. Certains sont même des intouchables, ils ne payent pas d'impôts. Alors, vous voulez que le gouvernement fasse quoi? On va pas faire des miracles. Ce qui va sortir là, ce sont des miettes qu'on va partager, et c'est insuffisant pour réaliser un développement réel dans un pays. Donc les gens ne doivent pas avoir peur. Quand on dit le gouvernement a 40 jours, et le Parlement
a 40 jours, la loi accorde 40 jours, oui.
Pour examiner le budget, vous pensez qu'en 40 jours, tous les députés là sont techniquement outillés pour voir tout ce qui a été fait? Non. À partir de la reddition des comptes, on donne même les moyens aux parlementaires de vérifier comment les autorisations qu'ils ont accordées pour réaliser des recettes et réaliser des dépenses, comment ça a été fait. À partir de là, on peut se faire une idée. Constater que non, nous avons un potentiel fiscal qui ne permet pas à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Et comment il faut faire? Puisqu'on ne peut plus recourir systématiquement à la planche de billets, il faut alors envisager des mécanismes pour pouvoir aider le pays à retrouver les standards. Ce pays appartient à tout le monde. Hein? Ce pays appartient à tout le monde. C'est chaque citoyen qui doit penser à l'avenir de son pays en étant un bon citoyen. Or, les gens qui échappent à l'impôt, parce que ça va être des impôts qu'on peut réaliser les programmes de développement, le souci des gens, c'est de voir, on a augmenté dans mon coin, on a augmenté dans tel ou tel coin. Mais on augmentera avec quoi? On ne va pas augmenter avec les chiffres sans que ça reflète la réalité. Donc, c'est un faux débat que de penser qu'il faut nécessairement qu'il y ait un budget déposé dans les délais. Le problème n'est pas de déposer dans les délais. Le problème, c'est de déposer un document qui reflète la réalité, qui est la base de la discussion. Et très souvent, c'est que l'opinion ne pense pas. Parce que nous sommes le seul pays où les débats parlementaires sur le budget, c'est difficile. Vous savez que dans beaucoup de pays, quand on élabore, on discute du budget, on fait passer ça sur les radios et les télévisions. Mais au Congo, ça devient du théâtre. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts vitaux du pays. On ne peut pas exposer au public tout ce qu'on dit. Il y a des choses secrètes qu'il faut garder. Il y a même certains budgets qui ne peuvent pas être révélés au public parce qu'il y a des actions. Un gouvernement doit se donner les moyens de pouvoir intervenir dans la vie économique et sociale. On ne va pas attendre pour dire non, on devait intervenir là-bas, mais il n'y a pas de ressources. Non, un gouvernement doit avoir les moyens de exécuter des dépenses utiles quand il y a un problème qui se pose. Donc tout ne se résume pas dans un budget. Là, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est la transparence budgétaire. Qu'on sache que telle dépense a été réalisée pour les fins qui avaient été prévues et qu'il n'y a pas eu de détournement. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas un problème de délai, parce que ce problème-là est réglé par la Constitution. Les hommes qui sont là doivent travailler jusqu'à la dernière minute. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement démissionnaire, les gens doivent garder.
Donc il ne doit plus
travailler pour dire non, comme nous ne serons pas là. Non, c'est la continuité de l'État. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, quand ils vont partir du gouvernement, ils vont quitter le Congo?
Voilà. Alors, professeur, c'est vrai que nous avons vu le gouvernement Matata en une année a pu quand même présenter, en tout cas en 2013, le budget à temps au Parlement, parce que à un certain moment, le ministère du budget avait organisé des ateliers où on avait associé la société civile et aussi d'autres couches sociales. On a dû parler et discuter sur le budget 2013. Et c'est ce qui a fait que cela a été déposé à temps. Mais ce qui étonne plus d'un, le même gouvernement, cette année, accuse un retard. Voilà. Donc, c'est là où maintenant les auditeurs parlent parfois d'une volonté manifeste de ne pas présenter ces budgets. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, ça c'est auprès des intentions. Moi, je ne suis pas au gouvernement pour vous dire quoi que ce soit. Mais il faut tenir compte du contexte. Je vous ai dit que le budget tient compte de certains paramètres. Vous avez par exemple l'évolution économique du pays avec des chiffres clés. On doit, alors, je prends par exemple le cas. Vous avez, quel a été le niveau des dépenses publiques et des dépenses privées? Ça, on tient compte de ça. Quel a été le niveau des exportations et des importations des biens? Il y a un téléspectateur, un auditeur qui a parlé de la production. Mais s'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'impôt à tirer. Quel est le saut de la balance des paiements? C'est ça qui permet de prendre des mesures d'ordre économique, monétaire et fiscal. Je viens de vous parler de la question de la taxe sur la valeur ajoutée, de TVA. Il y a aussi au niveau des provinces des problèmes qui se posent pour les impôts provinciaux qui ne sont pas recouvrés. Vous avez l'impôt foncier, vous avez l'impôt sur les revenus locatifs, vous avez les taxes spéciales des circulations routières. Vous savez que dans d'autres États, la violation du code de la route est un moyen pour permettre à l'État d'avoir des ressources. Parce que plus vous violez le code de la route, plus vous avez à payer à l'État pour les amendes. Quand quelqu'un viole, vous voyez, par exemple, nous avons dans la ville ici, personne n'est myope, hein. On voit comment les conducteurs de véhicules se comportent. Il y a des embouteillages, etc. Mais ça devrait être une source de recettes pour l'État. Non seulement ces gens tuent les citoyens congolais, mais ils ne sont même pas inquiétés. Ils violent les codes.
Voilà, alors professeur, on va prendre Guillaume qui est à Mahagui, Josias est à Gemena. Guillaume, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. Vous avez la parole, votre point de vue.
J'ai la parole comme l'invité, c'est un honneur, merci. J'ai très bien suivi l'invité lorsqu'il dit que le pays appartient à nous tous. Donc là, nous sommes tous propriétaires du Congo, là c'est très bien. Bon, hier, aujourd'hui, en ce qui me concerne beaucoup plus, il semblerait que le budget n'est pas encore là. Nous parlons encore du loi de la finance. Mais parce que vous savez, lorsqu'un budget sort, ça provoque beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Je peux vous expliquer, lorsqu'un budget sort, il y a d'abord le budget sort à terme nominal, le budget sort à terme constant. Et puis, peut-être, le budget peut être un budget de beauté, et encore, le budget peut être encore un budget de misère. Mais le problème majeur dans notre pays, c'est quoi? Même si la loi n'est pas encore sortie, peut-être la loi va sortir encore demain matin, c'est la capacité de la volonté et aussi la volonté de la confiance locale. Donc, hier, je rentre très bon, très loin encore. L'actualité oblige toute une société, l'actualité oblige toute une nation. Donc, l'État travaille contre tout être humain. Donc, le problème c'est quoi? Si vous me captez bien. La responsabilité aujourd'hui, c'est une responsabilité des institutions. Donc, je crois que par là, il n'y a pas encore de terme là, on ne peut pas dire. Donc, les acteurs politiques congolais, j'ai reçu un message, donc c'est prendre les choses au sérieux. Donc, au Congo, ce que je fais juste encore comme proposition, si vous me captez bien, si vous me donnez le temps, je ne sais pas si on peut y aller.
Oui, vous avez 40 secondes.
40 secondes, c'est beaucoup plus. Donc, je veux te conclure dans
30 secondes. Merci
donc,
beaucoup, Guillaume.
Je veux dire que les acteurs politiques congolais doivent se prendre au sérieux. Donc, ce que je voudrais beaucoup souligner, je ne sais pas si à quelle couleur de bite il faut souligner ça, c'est quoi qu'au Congo, il faut apprendre la culture du temps. Donc, c'est une très grande question. Il n'y a pas une culture du temps. Pourquoi au Congo, l'État ne joue pas contre les politiciens? Donc, je crois que c'est une chose là très grave. Je crois que nous sommes tous témoins de ce qui se passe sur la scène politique congolaise. Donc, en tout cas, il faut travailler avant tout pour le mieux de la population. Mais en posant la question, pourquoi l'État ne joue pas avec le temps contre les politiciens congolais, je crois que hier, c'est une question là que beaucoup de Congolais doivent répondre à ça. Je veux dire que l'État travaille contre tout individu, contre tout être humain. L'État travaille contre hier, l'État travaille contre Guillaume, l'État travaille contre l'invité qui est au plateau. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Guillaume. Nous prenons Josias qui est à Gemena, dans la province de l'Équateur. Bonjour Josias.
Bonjour JR, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, le débat, la thématique du jour, c'est l'exercice budgétaire qui est caractérisé chaque année par le retard dans le dépôt de budget, du budget au Parlement. Alors, quel regard portez-vous sur cette affaire?
Merci JR. Je commence à poser cette question. Est-ce que ce qui se passe au Congo, ce qui se fait au Congo, dans notre État, est-ce que ça se fait aussi ailleurs? Cette question, c'est à l'invité de répondre et à tous les parlementaires et à tous les hommes politiques de chercher à résoudre à cette question. Alors, ma préoccupation, ce qui se fait maintenant, à ce qu'il est que chaque année, qu'il est toujours le retard des dépôts, des budgets, un, c'est le non-respect des textes légaux. Parce que la République démocratique du Congo a quand même une constitution, a quand même des règlements, a quand même des ordonnances et lois qui sont signées par les présidents de la République et aussi a une chambre basse où on voit le président de l'Assemblée. Alors, qu'est-ce qui fait que de janvier jusqu'à présent, jusque-là, les députés ne poussent pas faire leurs travaux? Où sont-ils? Où étaient ces députés aujourd'hui? Il nous reste que 2 mois, je peux dire 1 mois et demi. Donc, c'est le non-respect des textes légaux. Les députés ne lisent pas la Constitution, ils ne lisent pas les règlements, ils sont partis même dans l'ignorance. Certains députés qui sont là-bas dans l'ignorance, ils ne connaissent pas, ils n'attendent qu'à la fin du mois, ils allaient retirer quoi, leur grande somme là, et puis c'est fini. Deux, c'est le calendrier des différentes sessions pour l'élaboration des budgets. Donc, il n'y a pas aussi le respect. Et ça nous renvoie même à parler de quoi non-respect du texte. Est-ce qu'il n'y avait pas le calendrier? Le président de l'Assemblée ne voyait pas ce calendrier? Est-ce que les députés, dans les différentes sessions, ne voyaient pas ce calendrier? Ce qui veut dire que les horaires d'hier,
allez-y rapidement, parce que vous avez quelques secondes.
Sont pour nous le respect. Nous devons nous référer des erreurs que nous avons commises hier, et aujourd'hui, c'est à partir de là que nous allons faire mieux. Partout ailleurs. Est-ce que nous voyons ce qu'apparaît, c'est honteux, pendant que l'idéal pour nous aujourd'hui, c'est quoi? La modernisation. Est-ce qu'avec des pareilles choses que nous allons moderniser le Congo, j'y ai?
Merci beaucoup Josias, on comprend bien votre inquiétude hein, qui tourne autour du travail que fait aujourd'hui le député. C'est vrai, on le sait, ce n'est pas un secret, et ça donne à la production législative et aussi au contrôle parlementaire. Et pour les volets, en ce qui concerne les volets contrôle parlementaire, voilà, vous insistez qu'il y ait aussi, comme l'a dit notre invité, que le parlementaire puisse vraiment avoir l'attention sur la reddition des comptes qui pouvait peut-être leur permettre d'avoir une idée pour critiquer le budget, l'exécution du budget passé et aussi faire des propositions pour les budgets à venir. Merci beaucoup Josias d'avoir appelé Degemena. Nous tournons sur notre invité tout à l'heure, donc on revient sur notre invité, professeur Grégoire Bakandeja. Vous avez suivi pratiquement les auditeurs, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétudes et aussi beaucoup de questionnements sur cette affaire de retard enregistré dans l'exercice budgétaire. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bon, monsieur JR, moi je suis tout à fait satisfait aussi de l'attention que portent tous les Congolais à la question budgétaire. Mais simplement, élaborer un budget, c'est faire un choix des priorités. C'est-à-dire, c'est donc un débat qui doit être nourri à la fois par la réflexion intellectuelle, mais également par des données statistiques. Il faut avoir des données statistiques. Vous savez par exemple qu'il y a beaucoup de défis à relever dans notre pays. Il y a le défi de la soutenabilité de la dette, le défi de la transparence. Mais il y a un autre défi. Vous avez l'impact de la guerre. Ça crée la guerre que nous avons, que nous connaissons dans ce pays. Ça crée un climat d'incertitude. Et ça a un impact sur le fonctionnement des institutions. Si l'année dernière, le gouvernement a présenté les éléments de projet de budget dans les délais, cette année, ça ne doit pas être différent. Cette année, il faut être dupe. Il y a eu des guerres, etc. Il y a eu plusieurs fois que des fonds ont été engagés pour les opérations militaires. Mais ces opérations militaires, c'est pas gratuit, hein. Quand on dit que les FARDC ont conquis tel ou tel coin, mais c'est de l'argent qui est impacté. Quand on dit que les Nations Unies sont intervenues, etc., mais ils n'interviennent pas parce qu'ils nous aiment, ils interviennent parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont en jeu, ce sont des dettes que contracte l'État congolais. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que les questions budgétaires sont au cœur de la démocratie, sont au cœur même de l'État. Donc il faut que l'on se comprenne. Je comprends qu'il y ait des retards, mais il ne faut pas être myope et dupe de ne pas voir ce qui se passe en réalité. Que si vous attendez des ressources, par exemple, de la province du Sud Kivu, de la province orientale ou de la province du Nord Kivu, et ces ressources-là, vous allez les avoir lorsqu'il y a un climat d'insécurité à l'est du pays, vous n'allez pas les avoir. Même chose au Katanga. Et tout ça, ça freine le développement. Ceux qui voulaient réaliser des activités économiques vont cesser, parce qu'on ne peut pas aller réaliser des activités économiques là où il y a l'insécurité physique. Ajouter à cela l'insécurité aussi judiciaire, c'est ça qui fait que on doit tenir compte de tous ces aspects-là. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement, j'ai dit tout simplement les retards. C'est tout à fait normal, c'est prévu par la Constitution. Le plus important, c'est que on s'y attelle et qu'on examine les choses. On a les éléments pour apprécier les promotions du gouvernement à partir de la reddition des comptes. On peut donc extrapoler pour avoir un document qui reflète la réalité. Mais tout ce qu'on donne là, c'est rien par rapport au potentiel de notre pays.
Professeur Grégoire Bakandeja, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Voilà, nous disons également merci à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Titi Mputu et Nadine Fula. Jir Lungamba a le plaisir de vous présenter cette production qui est supervisée par Nicole Ngaka. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro.